Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Il faut marcher. Marcher tout seul. C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Marcher. Marcher tout seul. Marcher tout seul.
Et puis j'ai compris ce qui se passait. Qu'est-ce que je comprenais pas? C'est que le curseur était mis à zéro. Lorsque j'arrive d'habitude, le curseur n'est pas à zéro. C'est le technicien avant moi là, qui est tellement bon là, qui met tout à zéro. Là. Fait que bon, c'est correct. Alexandre, j'ai remis ça au correct, puis là, on s'entend, puis on y va. Fait que c'est à nous le futur. Mon nom est Claude Saint-Georges, bienvenue beaucoup. Que la neige a neigé, ma vie est un jardin de givre. Merci, M. Émile Nelligan. Je ne me souviens pas du reste. En effet, la fenêtre de l'auto était givrée aujourd'hui, fait que j'ai parti ça. Et puis, c'est ce qui explique un peu, en partie, mon retard. Fait que hier soir, tu sais, je vous ai parlé déjà de Seymour Melman, cet ingénieur industriel états-unien qui a beaucoup écrit sur le désarmement des États-Unis, la démilitarisation, la conversion de l'industrie militaire à des fins civiles, etc. Fait que c'est un bon monsieur, très érudit. Et puis, j'ai regardé dans Wikipédia hier soir. J'ai pas été déçu, ça exprimait ce qu'il était. Et j'ai vu une vidéo où il était interviewé en 1989. Il est décédé il y a quelques années. Et puis, ben, j'ai écouté ça avec plaisir. C'était deux personnes, au total d'à peu près 50 minutes. Puis lui, c'était 24 minutes environ. Un très bon résumé de sa pensée. Autrement dit, les États-Unis dépensent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dans leur militarisme, au point de nuire à la société civile. Si on pense que l'économie américaine va bien en mesurant le PIB, c'est le PIB de l'industrie militaire américaine qui est supporté par le Pentagone, c'est pourquoi il écrit « Pentagon Capitalism », qui fait la « Permanent War Economy », une économie de guerre permanente. Et l'économie américaine, elle est à plus de 51% militaire, au point, comme je disais, que l'économie civile est négligée, les infrastructures sont négligées. Ça prendrait des milliers de milliards de dollars pour réparer ça. Un peu comme ici. Ici, ce n'est pas à cause de nos trop grandes dépenses dans le militarisme, mais en tout cas, il y a des négligences là, qu'on a fait. Fait que, si je pense à la chanson de John Lennon, à son « Oh boy », à son petit enfant, là, son petit garçon. Puis, c'est quoi? En tout cas, quand tu penses au futur, ce qui t'arrive pendant que tu penses au futur, c'est ça de la vie. Bon, OK, merci John, c'est correct. Fait que, donc, c'est moi, Melman, s'il a raison. Fait qu'il faut démilitariser, puis on n'a pas beaucoup de pouvoir pour obliger les États-Unis à démilitariser, sauf que à M. Trump qui dit tu veux annexez-vous à nous autres, là. Non, je dirais non, merci, pas intéressé pour tout. Tu veux nous faire payer ton déficit militaire? Non. Et puis, une autre question pour M. Trump, c'est qu'est-ce que les États-Unis ont de si attirant pour les immigrants? Je comprends pas. Peut-être qu'ils se font bernés par un rêve américain qui n'est pas vrai, qui n'existe pas pantoute, là. Fait que, what's so great about America, Mr. Trump? Fait que, l'ASPQ, j'ai appris ça dans Internet ce matin, a donné des prix pour la santé durable. Et la ville de Repentigny a gagné le prix pour la meilleure municipalité. Alors, je vais m'empresser de leur téléphoner après cette émission. C'est parce qu'ils ont innové dans les bonnes habitudes de vie. Fait que j'aimerais savoir ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. Parce qu'à Sherbrooke, sur la santé, c'est pas très fort. Et puis, surtout santé-environnement. Je voudrais savoir ce que Repentigny fait en matière de santé-environnement. Peut-être qu'ils font pas plus que Sherbrooke, là. Parce que des saines habitudes de vie, c'est, oui, l'individu qui se prend en main. Mais se prendre en main, des fois, tu peux respirer des toxiques, c'est pas de ta faute, là. Fait que les perturbateurs endocriniens, les phtalates, là, il faut se débarrasser de ça. Fait que donc, quand même, bravo à Repentigny, bravo à la ASPQ, l'Association Santé publique du Québec. Et puis, que dire d'autre? Bon, la neige a neigé. Merci, Émile Nelligan, c'est fait. Je pense que j'ai tout fait ça. Maintenant, ça, on passe à un livre que j'ai lu de l'Université de Sherbrooke. C'est de Trinh Nguyen Tuan. C'est « Désir d'infini, des chiffres, des univers et des hommes ». L'infini est le sujet le plus vaste que l'imagination puisse embrasser. Il a de tout temps fasciné les humains, qu'ils soient artistes, philosophes ou scientifiques. Mais l'infini se manifeste-t-il vraiment dans la réalité physique ou est-il seulement un concept de notre imagination, comme le pensait Aristote? C'est un bon petit livre intéressant. Fait que je vous le suggère, surtout que la première citation est de Tagore, l'Indien, le philosophe indien Tagore. L'infini touche chacun d'entre nous au plus profond de notre être, dit à la page 11 au début l'auteur qui est physicien. Fait que j'en dis pas plus, tu sais. Si je passais une émission par livre, aujourd'hui, j'en aurais pour 14 heures. Fait que, tout à l'heure, je vous parlais de Seymour Melman. En résumé, il dit que la société civile américaine est presque détruite. Notre société civile est un pas mal comme ça aussi. Fait que, il dit que les États-Unis ne produisent rien. T'sais. L'industrie américaine, ça ne produit plus rien. Rien à manger, rien à porter, tout ça. Fait que moi, ça m'a rappelé le livre de M. Jacques Laval, qui a écrit, mais je vais vous en parler tout à l'heure, là, en tout cas, c'est « De la mondialisation au local, changer d'échelle pour décarboner la planète ». Bon, alors, ça, je l'ai déjà interviewé, mais c'est un bon petit livre à lire. Et j'ai retrouvé dans son livre un article qui s'appelle « Priorité aux produits locaux, durables et responsables » de Geneviève Dufour. C'est le 25 février 2023, Libre opinion dans le devoir. Et elle est professeure à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Donc, allez lire ça, c'est très important. Là. Priorité aux produits locaux, durables et responsables. On ne connaît pas ça. Hein? Il faut recommencer à produire localement nos produits dont on a besoin et de façon écologique et responsable. Cependant, j'ai trouvé un bon petit programme à la ville de Sherbrooke qui s'appelle « Ensemble dans notre rue ». C'est un programme pilote. Vous faites une démarche, là, puis vous pouvez avoir 5 000 si vous satisfaisez aux critères dans votre quartier, dans votre rue. Moi, je me disais, les itinérants, est-ce qu'ils ont droit? Peut-être pas, malheureusement. Là. Ils sont, eux, dans la rue, n'est-ce pas? Fait que, bon, c'est quand même un beau programme pour, de la part de la ville de Sherbrooke. Et puis, la semaine passée, je vous ai parlé du livre de Édouard de Bonneau. Et je m'excuse, je me suis trompé de titre. J'avais dit « Six chapeaux pour penser ». C'est pas ça. C'est les six chapeaux de la réflexion. Et puis, tu sais, dans une discussion, là, c'est surtout les entrepreneurs qui s'en servent, mais pourquoi pas les réseaux sociaux. Le chapeau blanc, c'est celui qui regarde les faits. Alors, quand tu désires regarder les émotions, tu mets ton chapeau rouge. Et si jamais tu veux faire une critique ou parler des risques, tu enlèves le rouge et tu mets le chapeau noir. Puis, si tu as le goût de regarder les avantages, tu sais, tu as de la misère à prendre une décision, tu te dis, c'est quoi les avantages? Bien là, tu mets ton chapeau jaune. Puis, bon, supposons que tu vois beaucoup d'avantages, puis tu n'as aucune critique, puis tu es bien content, puis les faits sont bons, là. Comment faire ça? Bien là, tu mets ton chapeau vert, c'est la créativité. Puis, une fois que tu as tout fait ça, tu te demandes, est-ce que j'ai bien agi? Là, ça, c'est prendre du recul. Pour ça, tu mets ton chapeau bleu. Et enfin, je voulais vous dire deux autres livres, parce que la semaine passée, je vous parlais de la neuropédagogie ou la neuroéducation. C'est, disons, l'éducation adaptée au savoir qu'on connaît sur le système nerveux. Alors, il y a un livre qui s'appelle « Le cerveau et l'apprentissage » de Erik Jensen, J-E-N-S-E-N. C'est mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pour mieux enseigner. Ça va avec la théorie des intelligences multiples. Et puis, de Rosine Debré, c'est « Apprendre à penser », le programme de R. Feuerstein, « Une issue à l'échec scolaire ». Très, très bon livre. Très peu connu. Fait que, allez-y, laissez-vous aller là-dedans. Fait que maintenant, avant de continuer là-dessus, un autre livre d'Édouard de Bonneau, c'est « Réfléchir mieux ». Fait que j'ai noté quelques pages, puis je pense que je vais vous les lire. Je vais me calmer, aller lentement. Donc, 13, 14, 15. Il y a des bonnes petites pages ici, là. Réfléchir, est-ce que c'est une technique? Il semble qu'il y a deux points de vue. Pour certains, réfléchir, c'est comme marcher ou respirer. On ne peut, on ne doit rien y faire. Toute intervention ne fera que rendre l'acte maladroit, peu naturel et le gênera plus qu'autre chose. Si vous êtes intelligent, vous êtes doué pour la réflexion. Si vous n'êtes pas intelligent, tant pis. Vous n'avez qu'à écouter ceux qui le sont. Ceux ou celles, hein, n'est-ce pas? Ou bien, alors, réfléchir est une technique et ça s'apprend. Exactement comme on apprend à conduire une voiture, faire la cuisine, skier, jouer aux fléchettes ou tricoter. Certains sont meilleurs que d'autres, bien chacun peut atteindre un niveau raisonnable s'il le veut. Je passe à la page 14. Si nous pourrions nous occuper davantage des mécanismes mentaux qui interviennent dans l'acte du savoir-penser. Alors, tu sais, c'est ça qu'au lieu de modifier les gènes, là, s'occuper des mécanismes mentaux qui interviennent dans l'art du savoir-penser. Là, il parle de mécanismes mentaux. La semaine passée, je vous ai parlé de gestes mentaux. Il y a Antoine de la Garanderie qui a exploré les gestes mentaux. Que sont-ils? C'est l'attention, la compréhension, la mémorisation, la réflexion et l'imagination. Quelle est la différence entre l'intelligence et l'éducation? À mon avis, dit Edouard de Bono, l'erreur la plus dangereuse et la plus gênante dans l'éducation est celle de croire que les gens intelligents sont doués pour réfléchir. Si vous êtes intelligent, il n'y a rien que vous deviez faire pour améliorer votre réflexion. Si vous êtes une intelligence modeste, il n'y a rien que vous puissiez faire pour améliorer votre réflexion. Et le résultat, c'est que rien n'est entrepris pour améliorer votre réflexion. Ma propre définition de la réflexion et de l'intelligence, c'est « Réfléchir est la technique opératoire avec laquelle l'intelligence exploite l'expérience dans un but donné. » Est-ce qu'il y a un piège dans l'intelligence? En fait, il semble que ce soit encore pire que j'ai suggéré. Les gens très intelligents peuvent se révéler plutôt mal doués pour réfléchir. Il y a une facilité d'élocution qui est souvent prise à tort, à l'école ou plus tard pour la pensée. La personne intelligente s'en rend compte et s'est tentée de substituer l'une à l'autre, c'est-à-dire la pensée avec l'intelligence. Il est toujours plus satisfaisant d'utiliser notre intelligence dans un but critique que dans un but constructif. Ça, c'est une critique qu'il fait. Les esprits très intelligents semblent souvent préférer la certitude d'une pensée en réaction. Par contre, dans la pensée projective, c'est le penseur qui doit créer le contexte, les concepts, les objectifs. C'est ce qu'il appelle une pensée projective. Donc, je pense que nous gaspillons tragiquement des esprits brillants lorsque nous oublions de traiter la réflexion comme une technique que l'attention peut améliorer. Luis Alberto Machado, dont j'ai parlé la semaine passée, qui a été ministre pour le développement de l'intelligence au Venezuela, qui a écrit le livre « Le droit à l'intelligence ». Alors, là, lui, il a engagé Edouard de Bono pour qu'il donne un cours. En fait, c'était le cours CORT, CORT, avec 60 leçons pour bien réfléchir. C'est une expérience audacieuse et courageuse que semble devoir être suivie par d'autres pays, celle de Machado au Venezuela, ceux qui ont compris que penser était l'ultime ressource humaine. Entre parenthèses, beaucoup de migrants, dit-on, pour les États-Unis, là, des migrants illégaux viennent du Venezuela. Moi, je me demande beaucoup comment ça se fait que dans un pays où on a montré comment penser, que les gens veulent fuir ça. Donc, réfléchir avec efficacité. C'est la démarche de quelqu'un qui domine sa réflexion au lieu de passer d'une idée à l'autre, c'est d'une émotion à l'autre. Le penseur est efficace, sent clairement ce qu'il propose de chercher. Il peut définir sa tâche et ensuite s'y attaquer. Pensez lentement. Bon, donc, M. Edouard Donneau pense que la plupart du temps, on pense trop vite. Et il s'inclut lui-même dans ce « on ». Ce sont peut-être les tests et les examens qui nous ont persuadés de la valeur d'une solution trouvée rapidement. Mais du point de vue de la pensée, c'est faux. Même en cas d'urgence, nous avons le temps de réfléchir lentement. À chaque point, nous devons tout regarder autour de nous pour voir où nous en sommes et pour explorer l'environnement. Nous confondons rapidité de compréhension avec rapidité de pensée. lenteur avec bêtise, et si nous remplaçons lent par détendu ou prospectif, les avantages d'une réflexion plus lente nous paraîtront plus évidents. Ralentir notre façon de penser peut changer radicalement notre efficacité de penseur, et cela fait partie du savoir-penser le plus courant. Réfléchir plus lentement nous permet d'y voir plus clair à chaque étape. Pour cela, il existe des outils spécifiques que nous pouvons employer. Le reste du livre parle de ces outils spécifiques. Et maintenant, je m'en vais à la page 120. L'opérationnalité. Il est tout à fait exact que dans l'action, l'efficacité a plus d'importance que les finesses de l'intellect. Mais cette efficacité contient une grande part de réflexion. Si l'on écoute les éducateurs, il suffit de construire l'information de base pour l'action, pour que l'action suive. C'est inexact. Le savoir agir, jusque dans ses moindres détails, est aussi important que le savoir tout court. Là, je fais une réflexion sur Buckminster Fuller. Vous voyez-vous, lui, j'en parle souvent, il a fait un plan de 10 ans pour que l'humanité réussisse à vivre décemment. Et son plan n'a jamais été réalisé. En partie parce que seulement 1% des gens le connaissent, le plan. Mais peut-être aussi en partie parce que ici ils ne savent pas agir. Donc, c'est très bien de lire Édouard de Bono pour apprendre comment agir. Par commodité, écrit-il, j'ai inventé le mot « opérationnalité » qui se situe entre le verbe « opérer » et l'adjectif « opérationnel ». Il signifie le savoir nécessaire pour agir. Par exemple, se fixer des objectifs. Je l'ai déjà dit, il me semble que le savoir agir devrait figurer au même rang que le savoir lire, le savoir écrire, le savoir compter sur la liste des objectifs d'apprentissage. Un petit peu plus loin, et je termine avec ça. Bon. À propos de l'avenir, il doit y avoir une forme quelconque d'évaluation des futurs scénarios où l'on tiendrait compte des changements politiques, des changements de gouvernement, par exemple. On devrait également tenir compte du comportement de la concurrence, soit parce que les concurrents réagissent à notre action, soit parce qu'ils suivent leur propre ligne d'action. Concurrence, bon, est-ce qu'on peut parler de M. Trump? 132. Bonjour, M. Trump. J'espère que vous allez bien. J'ai le goût de vous sourire. Réfléchir est un acte voulu. Pour que la réflexion devienne un savoir-faire, il faut en faire un acte voulu, conscient, précis, sûr et agréable. C'est un acte délibéré. Un penseur ou une penseur devrait être capable de déclencher sa réflexion à volonté. Un penseur devrait être capable d'orienter sa réflexion sur n'importe quel sujet, sur n'importe quel aspect d'un sujet. J'ai eu un rêve dans ce sens-là. Parce que je voyais un curseur horizontal, tu sais, je pouvais déplacer le curseur, puis je pouvais penser à un aspect. Fait que réfléchir, c'est un acte précis, dit-il aussi. Être précis dans sa réflexion est la chose la plus difficile à réaliser. Il y a des outils comme, par exemple, le PMI, c'est plus, moins important ou intéressant, disons. Fait qu'un acte sur la réflexion devait être un acte accompli avec assurance. Et je termine ici, page 134. C'est un acte agréable. Réfléchir signifie davantage être en mesure de penser à des choses variées, avoir des idées, trouver des solutions, participer à une réflexion en profondeur. Les enfants aiment beaucoup réfléchir. Un jeune garçon vénézuélien qui, jusque-là, avait presque constamment fait l'école buissonnière, persuada ses parents de ne pas l'envoyer en vacances pour lui permettre de suivre des cours d'entraînement à la réflexion. Là, tu sais, c'est le fun, hein? Fait que c'est un bon livre. Ça s'appelle « Réfléchir mieux » de Édouard de Bono. Et puis encore un petit mot de ces mots Melman. Je vous ai parlé de Melman en disant parfois qu'il avait un collègue professionnel, Lloyd Dumas, L-L-O-Y-D-J, Dumas, D-U-M-A-S. J'ai quelques pages photocopiées ici, c'est de son livre « The Peacekeeping Economy ». Donc, c'est une économie qui veut garder la paix. Puis, j'ai une citation que j'ai traduite en français. C'est le coût macroéconomique d'une activité économique. Non productive. Ah, c'est ça, ouais. Donc, je répète. Le coût macroéconomique d'une activité économiquement non productive. Donc, les dépenses militaires, c'est une économie économiquement non productive. Ça a un coût macroéconomique énorme, gigantesque. puissance 2, c'est que la société civile se retrouve pauvre. Et seulement les militaires et ceux qui font de la recherche militaire se retrouvent riches. OK. Fait que là, on est rendu au livre AKUTEU de Solel Launière, AKUTU. C'est un livre d'une autochtone, à propos des autochtones. Donc, c'est entre deux croquettes de chez McDo à Robertval dans une vieille Mustang décapotable blanche à 5 ans que j'ai appris que je passais. Passer, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est blender dans une société majoritaire, c'est passer blanche. Pendant 20 ans, je me suis demandé si ça voulait dire quoi, passer. 20 ans, elle m'a demandé j'étais qui, moi. À 5 ans, ce que j'aurais aimé entendre, c'est quelque chose comme « Sois fier d'être Innu de tes racines. »« Sois fier de tes racines. » Donc, c'est le livre AKUTEU, AKUTEU. Et puis, j'ai dit un petit mot la semaine passée, mais j'ai pas eu le temps là, d'explorer davantage. C'est le groupe MIAJI, M-I-A-J-I. Le titre du livre, c'est O-D-I-B-I, O-D-B, Voyage dans l'histoire Anishinaabe du lac Simon. Le lac Simon, c'est en Abitibi. Alors, l'autrice, ben, c'est un groupe d'autrices, là, Emmanuel Dufour, entre autres. Qui sont les gens de la communauté Anishinaabe de lac Simon en Abitibi-Témiscamingue au Québec? Absent des livres d'histoire, ces membres ont voulu se raconter eux-mêmes dans les pages de cette bande dessinée. En effet, avant d'habiter dans une réserve indienne, ils vivaient des ressources de leur territoire où ils se déplaçaient de campement en campement. Ce récit s'adresse à tous et à toutes. Il a été constitué à partir d'entrevues et de témoignages recueillis par le groupe MIAJI, composé de Simo Sagakinik et d'anthropologues de l'Université de Montréal. Deux des dessinateurs et dessinatrices sont Anishinaabek et deux sont Québécois. Au début, il vous offre un petit voyage à travers l'histoire, les savoirs et le territoire de familles qui ont dû affronter les défis de la colonisation avant de s'installer dans le village sédentaire de Lac-Simon. Dans le lexique de fin, vous apprendrez quelques mots de leur belle langue. Alors, je pense que pour satisfaire CFAC, la radio qui nous accueille si aimablement, nous allons faire une publicité. Je vous reviens. De retour à Nous le futur avec Claude Saint-Georges. J'espère que vous allez bien. Fait que, tu sais, dans le journal Entrée libre de Sherbrooke, qui existe depuis, je crois, 38 ans, vous pouvez aller voir dans Internet, il y a un éditorial qui s'appelle MAGA, M-A-G-A, Make America Great Again, deux points, métho-réalité. Ça va dans le sens dont je vous parlais tantôt. Et puis, Melman aussi disait que les États-Unis sont au niveau du tiers-monde, ils approchent du quart-monde en réalité, si on regarde de leur développement industriel. Buckminster Fuller allait plus loin. En 1983, il disait qu'ils sont en faillite. Et imaginez-vous pas que ça va mieux, là. C'est encore en faillite. Enfin, ça, c'est un sujet dont personne ne parle. Surtout pas Trump, n'est-ce pas? Il voudrait qu'on règle sa faillite en nous annexant et en prenant nos ressources. Attention, les amis. Attention, les Canadiens qui souhaitent s'annexer aux États-Unis. Là. Réfléchissez deux fois. Renseignez-vous. Et puis, Réal Reid, j'en ai déjà parlé. Il a écrit un livre sur l'éolien au Québec. Nous avons un gisement éolien extraordinaire. Nous sommes capables d'énergiser, d'électrifier trois fois le Canada, les États-Unis et le Mexique, avec notre source de vent. Dans un courriel, il me disait que Hydro-Québec rapporte un déficit d'environ 30 % dans ses apports d'eau derrière ses barrages pour la deuxième année consécutive. En parenthèse, faible hydraulicité. Il faut se rappeler que la génération de 1 kWh par le solaire ou l'éolien permet de préserver environ 4 mètres cubes d'eau derrière les barrages. Alors, c'est une réflexion de Réal Reid, auteur de, je ne me souviens plus exactement du titre de son livre, mais sur l'éolien. Tu sais. Et puis, j'ai une photo en face de moi que j'ai agrandie, faite plastifier. On voit la Terre et la Lune, tu sais, un peu plus loin, puis le Soleil très loin. Alors, quand on regarde cette photo-là, moi, j'ai écrit « Les quatre coins de la Terre, est-ce que c'est vrai? » C'est évident que c'est faux, parce que la Terre, ce n'est pas un carré. T'sais, on voit que c'est un cercle. Fait que c'est, il y a des expressions linguistiques qu'il faut corriger, parce que sinon, comme dit Buckminster Fuller, ça montre que nous sommes encore dans la grande noirceur. Et Fuller disait que les parallèles et les perpendiculaires n'existent pas vraiment. Alors là, je regarde la Terre, puis le Soleil, puis la Lune, puis le cosmos derrière, puis je me dis, c'est pas perpendiculaire, c'est pas parallèle, c'est pas mal circulaire. Et puis, on fait une autre erreur très souvent, c'est qu'on dit que le soleil se lève ou se couche. C'est pas vrai. On devrait corriger ça. Aurore et crépuscule, ça peut être une sorte de correction, là. C'est au nom de l'intégrité intellectuelle que Fuller disait qu'on ne devrait plus dire ça, parce qu'il faut adapter notre langage à la réalité intellectuelle qu'on connaît. Si on veut sortir de l'ère de la grande noirceur, si on veut sortir de la société civile pauvre. Et un autre point, c'est quand je regarde ça, là, Fuller disait qu'il n'y a pas de haut et de bas. Tu te demandes, voyons, il y a un haut et un bas. Mais non, mais si tu regardes la photo que je vois, là, la Terre, le Soleil est à 92 millions de milles d'ici, puis la Lune, là, à quelques jours de fusée, bien, tu te demandes où est le haut, où est le bas. Fait que tu vois qu'il n'y en a pas de haut et de bas. Maintenant, un autre livre, une autre évolution, c'est « La médecine de la longévité, 2. Une révolution, point d'exclamation ». C'est du docteur Christophe de Jaeger, D-E-J-A-E-G-E-R. Il n'est pas le seul à écrire des livres sur la longévité, mais il dit « Ici, vivre jusqu'à 150 ans en bonne santé devenait la norme. » Et ce n'est pas en faisant des folies comme fait le monsieur dans l'émission Stat, là, des piqûres de 109 pour faire vivre longtemps. Là. Fait qu'en tout cas, je vous encourage à lire ce livre-là de Christophe de Jaeger, qui s'appelle « La médecine de la longévité, 2. Une révolution ». Et puis, en me promenant dans mes bibliothèques, j'ai retrouvé le manuel d'histoire du futur, « Comment nous avons changé de cap ». C'est 2020-2030. Ça fait plusieurs fois qu'on entend dire, tu sais, « Si on ne change pas, d'ici 10 ans, on n'existera plus ». Le premier qui a dit ça, c'est Hugh Tant en 1969. On existe encore, tant mieux, on s'est trompé parfois. Mais le livre « Manuel d'histoire du futur » dit dans l'an 2, là, que la pandémie qui a frappé l'humanité au printemps 2020 a rappelé l'insoutenabilité du fonctionnement actuel de nos sociétés. Tandis que certains annoncent leur effondrement. Cet ouvrage propose au contraire d'imaginer dans quel monde nous pourrions vivre demain si nous faisons dès aujourd'hui d'autres choix. Imaginer dans quel monde. Donc, ici, la décennie 2020 était celle du changement de cap. Démocratie, travail, écologie, culture, finance, 30 chapitres thématiques proposent un état des lieux de la situation actuelle et des mesures concrètes pour construire d'autres lendemains. Partant du monde tel qu'il est, cet ouvrage est un manuel à l'usage des générations présentes pour construire un avenir meilleur. S'appuyant sur les propositions de nombreuses organisations, il est un outil de débat citoyen, d'éducation populaire et d'imagination collective pour inventer ensemble un futur souhaitable, yeah, pour nos sociétés et pour la planète. Ça, c'est bon, hein? Alors, ça fait du bien. Puis là, ben, tu sais, je vois un livre, c'est « La science d'avant-garde » que j'ai pris à l'Université de Sherbrooke. À la bibliothèque Eva Sénécal. Il y a un chapitre à propos de Fridtjof Capra qui a été interviewé. Puis, c'est super important, là. Ça s'appelle, le titre, c'est « L'alphabétisation écologique, 2. Apprendre à lire et à écrire selon la nature ». Donc, on parle des fois de l'alphabétisation, point final. On parle de l'alphabétisation à l'informatique, la littératie informatique. Mais il y a aussi la littératie écologique. Alors, je vous répète le titre, c'est « La science d'avant-garde, l'homme face à l'univers dans tous ses états ». C'est à la bibliothèque de la ville de Sherbrooke. Je vous le conseille fortement. Je viens de vous parler de l'alphabétisation et l'écologie. J'ai quelques pages ici qui sont à ce propos-là, en d'autres mots, là, c'est la littératie écologique. C'est un peu Fridtjof Capra qui est interviewé d'une autre manière. Le grand défi de notre époque est de bâtir et de faire prospérer des collectivités viables. Qu'est-ce que la littératie écologique? Il s'agit de comprendre les systèmes naturels qui entretiennent la vie sur la Terre et appliquer les principes de la gestion des écosystèmes à la création des communautés humaines viables. Les principes des systèmes vivants, selon Fridtjof Capra, F-R-I-T-J-O-F, espace Capra, que j'ai interviewé en 1980 à peu près, à Ville-Morin, c'est ça, dans le nord, là, dans les Laurentides. Il y avait un camp sur le yoga, puis lui avait été invité, puis je l'ai interviewé. C'est à ce moment-là qu'il me disait que... Ah oui, Gorbatchev. Il était le seul politicien qui comprenait le nouveau paradigme. C'est pour ça que je vous ai cité des passages de deux livres de Gorbatchev il y a quelques émissions. Et entre parenthèses, je m'excuse, j'ai un travail à faire. Si vous regardez mes balados, il n'y a pas de titre, alors vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dedans. Il faut vraiment être patient. Fait que moi, je vais corriger ça, là. Je vais vous dire dans chaque balado, on est rendu à peu près 70, là, qui est qui, de quoi on parle dans tel balado, s'il y a des entrevues, c'est qui. Puis, il y a Richard Smoley, S-M-O-L-E-Y, qui a fait une entrevue de Fridger Capra aussi. Ça s'appelle « Schéma de connexion ». Si vous pouvez aller voir ça, c'est en 2022. Fait que, donc, c'est la conception inspirée de la nature, la littératie écologique. Elle demande ce que savent les gens et comment ils devraient l'apprendre, compte tenu des limites de la Terre et de ses systèmes. On parle de l'idée de conception inspirée de la nature. Elle s'est popularisée par l'entremise de concepts comme la biophilie et le biomimétisme. On étudie aussi la pensée systémique, c'est la compréhension des systèmes par la pensée systémique, et Friedrich Capra dans un courriel, puisqu'il est peu traduit en français, il y a seulement un livre de 1980 là, qu'il est en français. Et il m'a répondu que pour du français, si je pouvais me servir de la pensée de Edgar Morin, c'est parfaitement suffisant. Alors, Edgar Morin, vous pouvez l'étudier, le lire. Il a écrit le livre, entre autres, La Voix. Et il a 102 ans. Il vient d'en publier un dernier. Donc, ce changement vers un paradigme écologique s'inscrit dans la transition vers la durabilité, assurer le bien-être de l'humanité tout en réduisant considérablement la pauvreté et en préservant les systèmes de la planète essentiels de la vie. L'échange de l'information n'est qu'un aspect de l'intelligence écologique. Goleman, qui a écrit sur les émotions positives, dit « L'intelligence écologique nous permet de comprendre les systèmes dans toute leur complexité, ainsi que les interactions entre les mondes naturels et artificiels. Mais une telle compréhension exige un vaste bagage de connaissances, si vaste qu'il serait impossible de le loger dans un seul cerveau. Nous avons tous besoin de l'aide des autres pour naviguer dans les complexités de l'intelligence écologique. » Ça prend beaucoup donc de collaboration. Et puis... les compétences essentielles en rapport avec la littératie écologique sont, il y en a dans la tête, c'est-à-dire apprendre à connaître, il y en a avec le cœur, c'est apprendre à être, avec les mains, c'est apprendre à faire, avec l'esprit, c'est apprendre à vivre ensemble. Et enseigner la littératie écologique implique souvent ce qui suit. Il faut renforcer les capacités des enseignants dans le domaine de la pensée écologique et systémique. Il faut intégrer au programme d'enseignement existant les approches économiques et systémiques. Quels sont les 12 principes des systèmes vivants? C'est l'interdépendance, l'intégrité du système, la biodiversité, la coopération et le partenariat, la dimension appropriée, les cycles de vie, déchets égale nourriture. Il y a des systèmes industriels où les déchets d'une industrie sont de la nourriture d'une autre industrie. C'est surtout McKibben qui a dans son livre Hop Cycle, dont j'ai parlé aussi, là, qui travaille ça. La rétroaction, la non-linéarité, les propriétés émergentes, le flux, qui est le mouvement continu de l'énergie, et les ressources communes. Fait que j'ai terminé avec la littératie écologique. Pour aller plus loin, vous savez quoi faire, vous les jeunes, là, Google, puis vous allez pouvoir tout lire ça. Bon, un petit mot pour vous parler du manifeste pour le revenu de citoyenneté de Michel Chartrand. Ça existe. Tu sais, pour se sortir de la pauvreté, il faut faire quelque chose, là. Peut-être qu'il faut se donner un revenu de citoyenneté. Puis Abdenour Bidar, lui, a écrit « Libérons-nous des chaînes du travail et de la consommation par le revenu de base ». Donc, c'est deux auteurs qui parlent du même sujet, revenu de base et revenu de citoyenneté. Fait que si je regarde mes livres, il reste encore pas mal de choses à dire. Un petit instant. Abdenour Bidar, dans Le génie de la France, il nous parle du vrai sens de la laïcité. C'est très important à lire. J'en ai dit un petit mot la semaine dernière. Puis ce même Abdennour Bidar, qui a écrit entre autres « Les tisserands pour réparer le tissu déchiré de la terre », a également écrit « Quelle valeur partager et transmettre aujourd'hui ». J'ai regardé ça là, dans le sommaire. Il y a combien de valeurs? 45. Fait qu'il y en a dans la culture de la sensibilité et la culture du jugement. Par exemple, fraterniser. Et dans la culture de la règle du droit et de la culture de l'engagement, il y a par exemple être autonome, avoir du savoir-vivre, être citoyen, devenir créateur, grandir en humanité. Alors, je vous encourage fortement à lire ce livre-là pendant les vacances de Noël. Abdennour Bidar, quelle valeur partager et transmettre aujourd'hui? Il m'en reste à vous dire, mais j'ai par ailleurs une entrevue à faire. Fait que je vais vous parler de ça après Noël en 2025. OK. Fait que je fais une petite musique et puis je fais un petit téléphone et je vous reviens. Rebonjour, bienvenue à Nous le futur encore. Et puis, il reste quelques minutes pour parler avec Gabrielle Rondeau-Leclerc du Jardin nourricier au CPE Les Petites Puces. Bonjour, Madame Rondeau-Leclerc.
Bonjour, ça va bien?
Oui, merci. Et vous-même?
Oui, merci.
Bon, nous en sommes à notre quatrième entrevue, je crois, pour cinq sujets. Et le cinquième, c'est le Jardin nourricier au CPE Les Petites Puces.
Oui.
Pourriez-vous nous en parler? C'est quoi le Jardin nourricier de ce CPE?
Oui, dans le fond, le CPE Les Petites Puces, c'est un CPE qui se trouve sur la rue Frontenac au centre-ville, qui nous avait approché pour faire un projet d'aménagement de leur cour, qui est en fait très petite et contiguë dans une pente face au nord. Beaucoup de défis dans cet aménagement-là. Mais on a fait venir différents intervenants pour le projet, pour finalement réussir à proposer quelque chose d'intéressant pour aménager leur terrain.
OK.
Puis, tu sais, dans le fond, l'intention, c'était de planter des fruitiers puis un petit potager pour les enfants pour qu'ils puissent découvrir les saveurs, découvrir les sens, puis éventuellement connaître un petit peu plus de saveurs à l'école.
Ah, c'est le fun. Et est-ce que vous l'avez fait l'été dernier? Ou c'est un projet pour l'été prochain ou les deux? Là?
Ce projet-là, il a commencé à l'automne 2023.
OK.
On a fait une première plantation sur la devanture. Donc, on a planté là, des fruitiers, on a planté des kiwis, des camrysiers, etc. Plein de petits fruitiers, puis des fleurs, des plantations de vivaces. Puis, au printemps dernier, on a planté le potager qui avait été aménagé par... une entreprise qui s'appelle Les Cultivés, qui est un collaborateur dans nos projets d'aménagement plus de charpenterie. Donc, il a fabriqué des bacs, il a fait des travaux de charpente là, pour justement répondre aux défis du terrain. Là.
OK, d'accord. Et puis, est-ce que vous avez une sorte d'évaluation de comment les enfants apprécient ça?
Bien, en fait, vu que c'est relativement nouveau, la partie d'en avant n'est pas encore accessible aux enfants pour différentes raisons un petit peu spécifiques. Là, mais donc, éventuellement, quand la partie d'en avant va être accessible pour les enfants, ils vont pouvoir aller jouer dans cette zone-là puis aller goûter les choses. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils ont plus accès pour l'instant à la partie potager.
Mm-hmm.
Puis... Les éducatrices là, intègrent des activités avec les jeunes dans le potager, aller faire des petites cueillettes de fruits, ben, pardon, de légumes, mm-hmm. de fines herbes. Puis aussi, ils ont toutes fait les semis là, avec les enfants.
Mm-hmm. C'est pas mal merveilleux de faire ça, je crois, là. Ben, plus que je crois. Fait que, tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé de la littératie écologique. Fait que vous commencez vraiment avec les enfants de... Ils ont 4-5 ans, la littératie écologique? 3 ans?
Ben, je pense que le CPE, c'est avant 5 ans, ouais.
Ouais, OK, d'accord. OK. Fait que, c'est bon. Hein? Moi, j'ai pas connu ça dans mon enfance. Je pense que mes parents... Mes parents ont une chance qu'ils faisaient un jardin, là, à Bourlamac, une petite ville de Val-d'Or. Je me souviens de la rhubarbe.
Ah ouais, hein?
Oui. Et puis, bon, est-ce que, par curiosité, le développement intellectuel de ces enfants-là est favorisé par le fait d'avoir un jardin? J'imagine que oui, ça peut pas être non.
Ça peut pas être non,
pas être
non hein?
Leurs sens sont émoussés.
C'est ça qui est le fun au CPL, les petites puces, là, c'est que ils ont vraiment une intention de faire de l'éducation en nature. Donc, bien qu'ils ont genre un minuscule terrain en plein centre-ville, avec justement là, des contraintes de relief et tout ça, ben, ils ont vraiment réussi à faire, à aménager quelque chose de vraiment amusant pour les enfants à l'extérieur. Ils ont fait des petits tipis en saule, ils ont justement le petit potager, le petit aménagement en avant. Puis les enfants passent beaucoup de temps à l'extérieur, puis c'est vraiment au cœur de leurs intentions dans ce CPE-là, là, que les enfants aient accès à ça, autant en été qu'en hiver.
Oui, c'est bon. Fait que la Camerise, c'est quoi déjà ça? Vous avez parlé de la Camerise tout à l'heure. Que vous plantez?
La Camerise, c'est un petit fruit nordique qui est encore, disons, en émergence, là, dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans les épiceries, mettons. Pourtant, c'est un fruit qui est très facile à cultiver. Mm-hmm. Ici, au Québec en particulier, c'est en fait, la plante est originaire de la Russie. Donc, c'est pas une plante qui est indigène d'ici, mais elle pousse très bien ici, elle est vraiment très bien adaptée, très rustique. Rustique, là, ça veut dire qu'elle résiste au froid, à nos hivers difficiles, au gel. Donc, c'est une plante qui est vraiment super à planter là, dans nos jardins. Mm-hmm. À la maison, ça pousse à l'ombre, ça n'a pas besoin de beaucoup d'entretien, cet arbuste-là. Donc, vraiment super. Mm-hmm. Puis, il y a même des fermes de camerisiers au Saguenay. Mm-hmm. Juste pour vous donner une idée là, de la rusticité là, de cette plante-là qui peut même pousser facilement au Saguenay.
OK. Là, pendant que vous parliez, je vous écoutais, mais j'imaginais M. Poutine qui vous écoute puis qui est tellement heureux de voir que nous, les Québécois, grâce à vous, entre autres, importons la Camerise de la Russie. Fait que nous valorisons la Russie. Puis là, il est si content qu'il décide d'arrêter la guerre d'Ukraine. Excusez-moi, je délire.
C'est surprenant, j'adore ça. Mais c'est surprenant parce que, tu sais, il y a beaucoup de plantes dans la région, là, justement, de la Russie, qui sont très adaptées à nos climats parce qu'on a un peu des climats similaires, veux pas, entre ces deux pays-là. Donc, entre autres, je pense à l'argousier, qui sont des plantes, des plantes fruitières.
Ouais.
Qui ont été importés ici, justement, parce que il y avait des caractéristiques qui étaient très intéressantes pour notre climat.
Oui, d'accord. On pourrait demander à Trump d'annexer la Russie.
Écoute.
En tout cas, fait que là, tu sais, les jeunes enfants, tu sais, ils arrivent à l'université et sont pleins d'éco-angoisse. Est-ce que vous pensez que des jardins comme ça, si c'est continué, ça va aider à diminuer l'éco-angoisse lorsqu'ils vont arriver à 18 ans ici, là?
Oui, bien, moi, je pense que je suis vraiment d'accord, en fait, avec ce que vous dites. Je pense que le contact avec la nature est apaisant, puis aussi d'avoir des opportunités de jardiner ou de juste cueillir quelque chose ou avoir les mains à la terre, pour moi, c'est comme... Ben, moi, je sais que pour mon système, à moi, ça m'amène beaucoup de réconfort puis de tranquillité.
Oui.
Mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il y a beaucoup d'études aussi qui ont été faites là-dessus,
oui.
Puis que c'est plus à prouver. Après ça, comment le faire? C'est ça le défi, tu sais, parce que dans les écoles secondaires, ben, veux pas, tout l'été, il n'y a pas de jeunes à l'école. Fait qu'on peut pas nécessairement partir un potager, tu sais. Oui. Dans une école secondaire, du moins, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut avoir des partenaires, peut-être un camp de jour qui vient pour s'occuper du jardin, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que pour ça, nous autres, c'est pour ça qu'on favorise de planter des vivaces comestibles. Donc, les écoles avec lesquelles on travaille, ben on va proposer des aménagements de vivaces, justement avec des plantes comme la camerie, justement, qui sont très rustiques, très... qui n'a pas besoin de beaucoup d'attention, pas beaucoup de soins. Mm-hmm. Puis, on va faire des aménagements directement en sol, dans les écoles, dans les cours d'école. On va enlever de l'asphalte, on va planter. Mm-hmm. Puis, comme ça, après ça, ben les jeunes, ils participent à ces plantations-là. On les invite pendant leur séance de cours. Ils vont sortir de la classe, sortir à l'extérieur puis planter avec nous, tu sais.
Mm-hmm.
Okay. Puis comme ça, ils se développent non seulement un sentiment d'appartenance, ils vont prendre soin de ces végétaux-là, ils vont vouloir, tu sais, que ces plantes-là éventuellement viennent à faire des fruits, ils vont les connaître, ils vont savoir leur nom, puis éventuellement, ben ça crée justement une relation avec la nature, mm-hmm, que je pense qu'il peut juste faire du bien à... Mm-hmm. Dans un contexte où il y a beaucoup de changements dans notre environnement, puis des fois, effectivement, ça peut être anxiogène, tous ces changements climatiques, mm-hmm, mais de faire des actions concrètes, puis d'avoir accès à ça dans notre quotidien, parce que je veux pas, quand on est au secondaire, on passe la plupart de notre temps à l'école, là.
Oui, oui.
Fait que si on peut avoir accès à un peu de nature... dans le contexte scolaire, ben, je pense que ça peut être super positif. Ouais. Mm-hmm.
Est-ce qu'il pourrait y avoir du jardinage intérieur dans les écoles l'hiver?
Ben, je pense que oui. Je pense que oui. C'est d'installer des systèmes, que ce soit hydroponiques ou des serres, mm-hmm, des petites serres intérieures.
Ouais.
Rien de très... Ça peut être... Je pense que ça peut être quand même simple,
oui,
comme installation. Puis... Il faut avoir des bonnes lumières, puis
oui,
faire pousser des petites choses. Ou bien, si on a plus de budget, ben installer, pourquoi pas, des serres dans nos écoles, ça serait cool.
Mm-hmm. Justement, je pense qu'il faudrait le faire là, pour passer du CPE au primaire, au secondaire, au cégep et à l'université, sans angoisse, puis avec des contacts avec la nature. Moi, ça m'intéresse. Je pense, je sais pas si j'ai parlé du projet LG2, tu sais, les liens entre génération puissance 2.
Okay.
Parce que j'aimerais ça accueillir la prochaine génération à l'Université de Sherbrooke, que les aînés les aident, là, puis fassent des conférences. Puis en tout cas, fait que pas juste les gens d'université, accueillir les cégepiens puis les gens du secondaire. Fait qu'il faut entretenir la flamme de la nature en eux. Fait que vous contribuez beaucoup à le faire. Je vous félicite et vous remercie. Puis on doit déjà arrêter. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez oublié de dire que vous aimeriez ou un message à communiquer concernant les projets de rêve nourricier futurs?
Ah, ben...
on peut devenir membre. Ben,
vous parliez de intergénérationnel.
Oui.
Je sais qu'il y a à l'université, il y a l'université du troisième âge.
Oui, OK.
Puis cet hiver, en janvier, je vais offrir une conférence dans le cadre de l'université du troisième âge. Ça va être le 27 janvier.
OK. Bien, je vous remercie, puis je vais recommuniquer avec vous pour ça, pour pas l'oublier.
C'est
d'accord?
Bon, ça.
Fait que oui, je vous souhaite des joyeuses fêtes à vous et à vos proches.
Joyeuses fêtes.
Merci beaucoup. Fait qu'on doit terminer l'émission. Alors, au revoir. Merci bien, Madame Gabrielle Rondeau-Leclerc.